Réplique, littérature d'aujourd'hui, avec Nicolas Mathieu et Maria Pourchet. Rien, hélas, ne me vient facilement. L'introduction des débats de réplique me demande toujours du temps et du labeur. Et quand il ne s'agit pas à proprement parler d'un débat, la difficulté est encore accrue. Maria Pourchet et Nicolas Mathieu n'ont pas de thèse à défendre. Toutes les femmes sauf une, et leurs enfants après eux, sont des œuvres littéraires. Et je ne voudrais pas, en les présentant, les réduire à leur contenu. Car c'est aussi par la manière, par la singularité de leur écriture, que ces livres donnent à penser. Voici, à titre d'exemple, un passage de leurs enfants après eux. C'était ce truc qui passait en boucle sur M6. En général, ça donnait envie de casser une guitare ou de foutre le feu à son bahut. Mais là, au contraire, chacun se recueillit. C'était presque encore neuf, un titre qui venait d'une ville américaine et rouillée, pareille. Une ville de merde, perdue très loin là-bas, où des petits blancs, crades, buvaient des bières bon marché dans leurs chemises à carreaux. Et cette chanson, comme un virus, se répandait partout où il existait des fils de prolos mal fichus, des ados véreux, des rebuts de la crise, des fimères, des releleux en mob, des fumeurs de shit et des élèves de secpa. À Berlin, un mur était tombé et la paix déjà s'annonçait comme un épouvantable rouleau compresseur. Dans chaque ville que portait ce monde désindustrialisé et univoque, dans chaque bled déchu, des mômes sans rêve écoutaient maintenant ce groupe de Seattle qui s'appelait Nirvana. Et voici maintenant un extrait de « Toutes les femmes sauf une ». La langue commence à 6 ans. Avant, je pouvais croire que tout le monde m'aimait, et encore avant, j'étais sourde. À 6 ans, je ne tiens dans la rue la main de personne. C'est en tout cas la mémoire de ma main. Pour éviter les bagnoles, on me tire par la manche. Regarde où tu mets les pieds. Je rêve, les yeux aux nuages, je marche dans la boue. Quand on dit merde, c'est qu'on en est. Je souille les chaussures que je ne voulais pas porter. Tu fais exprès, oui. Tu peux toujours courir pour en avoir d'autres. Les nuages ont des formes d'Afrique et de chien. Quand on dit merde, c'est qu'on combat. Fin de citation. Comme je ne veux pas tout gâcher avec mes gros sabots d'intello, je demanderai à mes deux invités de prendre en charge l'introduction eux-mêmes, en commençant par le commencement, c'est-à-dire par les titres. On ne choisit pas le titre d'un livre par hasard. Et d'abord vous, Nicolas Mathieu. Pourquoi leurs enfants après eux? Qu'est-ce que ce titre signifie? Qu'est-ce qu'il est censé nous dire?
J'ai choisi ce titre pour plein de raisons différentes. Déjà peut-être parce que donc ce titre il est emprunté à un texte de l'Ancien Testament qui s'appelle le Siracide. Et il fait peser sur tout le livre une espèce de fatalité qui est celle de la reproduction sociale, mais en l'ancrant dans la Bible, ça montre bien que cette fatalité sociale, la reproduction, comme on appelle ça, c'est pas seulement un phénomène de société, c'est pas quelque chose uniquement de contemporain, c'est quelque chose qui est de toute éternité. Et j'avais envie de l'ancrer là-dedans. Finalement, la fatalité sociale, c'est ce contre quoi se battaient les héros tragiques, c'est le destin. Et contre ça, il y a toujours une part de liberté à jouer, ce que vont faire les personnages. Puis il y avait une autre ambition aussi, en prenant ce titre, c'est que dans le même Siracide, James Hadji a emprunté son titre « Louons maintenant les grands hommes ». Et qu'au début d'un roman, on se fixe un cap, c'est un voyage au long cours, et que mon ambition, c'était moi aussi, à ma mesure, de faire la même chose que Hadji avec « Louons maintenant les grands hommes », c'est-à-dire un livre qui parle des vies minuscules, qui soit ambitieux littérairement et très documenté, qui se source dans le réel le plus possible. C'est ce fameux bouquin qui est publié maintenant chez Terre des Hommes, je crois, et illustré par les photos de Walker Evans. Donc c'était aussi un clin d'œil dans cette direction-là pour me fixer l'horizon de ce roman.
Donc c'est
Louer soi les petits hommes, en quelque sorte,
oui,
votre livre.
Exactement. Mais quand James Hadji dit « louons maintenant les grands hommes », c'est bien parce qu'il considère que ces petites gens sont le sel de la terre et ouais. que même s'ils ne sont rien au regard de l'histoire, ils ont une grandeur de statut, quoi.
Et la citation de l'Ancien Testament, je la lis, et en effet, elle est en épigraphe à votre livre. « Il en est dont il n'y a plus de souvenir. Ils ont péri comme s'ils n'avaient jamais existé. Ils sont devenus comme s'ils n'étaient jamais nés. Et de même, leurs enfants après eux. » Et donc, vous leur accordez, par la littérature, une existence individuelle, en quelque sorte, singulière. La littérature est une sorte de rédemption, de rachat.
Oui, alors c'est peut-être une manière... Vous savez, on se demande toujours pour qui on écrit, c'est-à-dire la place de qui. Sans doute que moi, j'écris à la place de mon père ou de mes arrière-grands-parents, je ne sais pas. Peut-être aussi, il y a le paiement d'une dette, c'est-à-dire que moi, je viens d'un milieu social qui m'a donné les moyens de m'éloigner de lui. Et curieusement, par l'écriture, j'y suis revenu, ouais.
Vous venez d'un milieu social donc assez modeste, c'est ça ?
Oui, modeste, c'est-à-dire c'est des classes moyennes inférieures, on dirait.
Pour les aujourd'hui.
Voilà, exactement. Ce qui est modeste surtout culturellement, c'est-à-dire que il y a une position de déférence vis-à-vis de la culture et des livres, quoi, ça c'est sûr.
Votre père était...
Électromécanicien.
Électromécanicien, ouais. Oui. Alors Maria Pourchet, même exercice, toutes les femmes sauf une.
Alors déjà, au départ, ce n'est qu'une phrase qui préexiste au livre et qui pendant des mois existe dans mon esprit comme une obsession. C'est la seule phrase qui verbalise, qui matérialise un certain malaise. Et je sais bien qu'elle doit m'emmener vers quelque chose, je ne sais pas. Alors plus tard, on m'a dit qu'on m'a rappelé Peter Pan, tous les enfants sauf un, et que c'était peut-être pour ça, que c'était une résonance de cette histoire qui était... Et bref, je l'ai tenu comme un fil jusqu'à ce texte-là, qui... Donc, faut que je dise quelques mots de l'histoire, parce que ça deviendra plus évident. C'est l'histoire d'une femme qui, en accouchant d'une autre, se découvre terrorisée par la reproduction, l'idée de la reproduction. Alors, elle sait que ça existe, hein, que dans sa matriligne, je crois que c'est un mot que j'ai plus ou moins inventé, d'une génération à l'autre, les femmes se transmettent les mêmes limites, les mêmes malédictions. Se transmettent finalement une certaine condition féminine, et elle décide que ça s'arrête, que si toutes les femmes ont subi la fatalité, pour reprendre le mot de Nicolas, la fatalité de la reproduction, sa fille non, donc sauf une, sauf elle.
Voilà. Oui, alors nous arrêtons à cette fatalité parce que c'est un thème et même un leitmotiv commun à vos deux livres. Alors, je vous cite Maria Pourchet. Je ne doute pas une seconde que toutes, absolument toutes les phrases en italique, en effet, vous alternez les phrases en caractère romain et les phrases en italique, prononcées par ma mère, lui aient été adressées par la sienne, à qui la sienne parlait ainsi. Elle non plus n'a rien inventé. Je ne dis pas qu'elle se venge, je ne dis pas qu'elle y croit, je dis qu'elle répète, dans l'impossible conscience de la destruction qu'elle engendre, la répétition. Il n'est pas question d'amour, mais de machine. Et à la fin de votre livre, un de vos personnages principaux, Anthony, voit sa mère, il dit, rien qu'à la regarder, il se sentait mal. Ces femmes qui, d'une génération à l'autre, finissaient toutes effondrées et à moitié boniches, à ne rien faire qu'assurer la persistance d'une progéniture, vouée aux mêmes joies, aux mêmes maux, tout cela lui collait un bourdon phénoménal. Dans cette obstination sourde, il devinait le sort de sa classe, pire, la loi de l'espèce, perpétuée à travers les corps inconscients de ces femmes au fourneau, leurs hanches larges, leurs ventres pleins. Anthony détestait la famille, elle ne promettait rien qu'un enfer de reconduction sans but ni fin. Lui ferait des voyages et des miracles, il s'autoriserait des choses, il ne savait pas quoi au juste. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que ce personnage, parce que nous arrivons là à la fin du livre, pourra s'autoriser des choses ou sera condamné lui-même à reproduire ce destin?
C'est la grande question du bouquin, un peu. C'est-à-dire qu'au départ, il a 14 ans et tout semble très ouvert. La première phrase du livre, c'est « Anthony, regardez droit devant lui ». Et puis, au fur et à mesure, on sent bien que, en dépit de ce que lui a comme énergie, des choses auxquelles il aspire, il y a quand même des structures qui jouent très très fort sur lui. Des structures familiales, sociales, même physiques. C'est-à-dire qu'il a une gueule qui ne l'aide pas à atteindre ses objectifs sentimentaux, on pourrait dire.
Il n'est pas laid non plus, mais non, il a un œil...
Un œil paresseux.
Un œil paresseux, un œil un peu malade. Mais il est petit, mais il est bien bâti, musclé, et donc il peut quand même attirer le regard des filles.
Hein? Oui, absolument, oui, il est... Pendant le bouquin, il lui arrivera des choses agréables et favorables aussi.
Quand même, oui.
Le problème de la fatalité, c'est que c'est pas une loi d'airain absolue. Il y a toujours des marges de manœuvre, il y a toujours des interstices où on peut se glisser et faire valoir de l'individu, de la liberté, du libre arbitre, un petit peu. Le problème, c'est que ce truc-là, c'est la portion congrue. C'est une possibilité, mais c'est pas la loi. Et c'est un roman, peut-être, qui accorde une place plus éminente aux règles qu'au cas. Au grand poids qu'aux exceptions, voilà.
Oui. Mais alors, vous dites dans le livre, vous dites l'héroïne du livre accouche, elle parle à sa fille, etc. Mais en même temps, ce livre, ce n'est pas un récit, c'est pas un roman, c'est un récit. Donc, il nous donne à penser que l'héroïne, en l'occurrence, c'est vous. C'est le contrat de l'autobiographie dont parlait Philippe le Jeune. Et parce que le livre est terrible, c'est vous adressez à votre fille et vous faites de la mère, qui semble être tout de même votre mère, un portrait effrayant. Cette femme vous a écrasé et vous en êtes sorti avec beaucoup de difficultés et toutes les phrases qu'elle vous a répété, qu'elle vous a rabâché, était faite pour vous casser. Et je suis bien obligé de dire vous, parce que c'est toute la force, toute la beauté du livre.
Maria Bourget. Le registre est plus testimonial que fictionnel. Après, il y a quand même quelques effets de fiction. Ça serait pas intéressant de les annoncer, mais il y a quelques effets de fiction pour me protéger, pour protéger ma famille, pour créer parfois des montées en généralisation qui ne peuvent se produire que par la fiction. Voilà pour le et pour le coup parler de ce phénomène-là, de la reproduction, qui moi est quelque chose qui est pour moi le drame social, le drame de mon temps se résume là-dedans, dans ce phénomène que Nicolas lui a réussi à parcourir par la fiction. Moi j'en étais incapable en fait. J'ai essayé d'en faire une fiction, mais j'ai jamais réussi à franchir ça. Je suis au pire, je peux être sociologique ou testimonial encore. Donc j'ai accepté ça au prix dont vous parlez, c'est-à-dire qu'on est obligé de parler des siens. Voilà, donc oui, c'est encore aujourd'hui c'est difficile à assumer. Après, mère terrible, mère qui a écrasé, ça sous-entend qu'il y avait une intention de cet ordre derrière les phrases qui étaient prononcées. Et ces phrases-là, elles sont prononcées comme un réflexe, que c'est des rails verbaux en fait, beaucoup plus que des adresses personnelles. Après, c'est la réception qu'on en fait qui crée le désastre. Mais ce n'est pas prononcé par un monstre, c'est prononcé par quelqu'un qui ne s'écoute pas parler. Et le drame est essentiellement là.
Oui, enfin, je ne sais par où entrer dans ce barbardage qui n'a ni fin ni commencement, prononcé depuis toujours. Supposons qu'il ait un début. Regarde où tu mets les pieds, ne réclame pas, ne te fais pas remarquer. Tu la vois celle-là, tu l'as pas volée, ça t'apprendra. C'est pas des gens bien, t'avais qu'à travailler, tu vas le payer, garde tes distances, ne prends pas tes aises. Pour moi, c'est terminé, je suis depuis trop longtemps déjà la somme de leurs phrases, je suis au mieux la distance parcourue pour les fuir. J'ai assimilé, je suis ce que ces phrases ordonnent, je suis le crime parfait du langage. Reste à ta place, reste pas dans mes jupes, arrête de penser à toi, tu en veux une autre. Et le livre est parsemé de ces phrases comme ça qui sont un dénigrement perpétuel. D'ailleurs, c'est un tel dénigrement qu'on se dit peut-être y a-t-il une part de vérité, parce que il s'agit aussi d'un dénigrement physique. On se dit mais moi je me suis dit mais peut-être c'est vrai, Maria Bourget est disgracieuse. Mais qui vais-je voir? À un moment donné, vous avez des cheveux en brosse, etc. Qui vais-je trouver? Alors, il est malheureux que nous soyons à la radio, parce que je peux dire... Enfin, j'ose dire que vous êtes une très jolie femme, et en tout cas, votre mère ne vous la... Enfin, la mère de l'héroïne ne lui a jamais laissé entendre.
Enfin, la mère de l'héroïne ne voulait surtout pas qu'elle le croie.
Voilà.
Et peut-être que, là, pour le coup, peut-être que c'était bien, puisque quand on est persuadé de ne pas disposer de ce capital-là, on cherche à en développer un autre. Donc j'ai lu beaucoup de livres, j'ai bien travaillé à l'école, enfin à partir d'un certain moment.
Ah, vous avez bien travaillé à l'école,
oui,
finalement,
grâce à elle. Oui, en disant, si je suis moche...
Alors, venons-en quand même, restons-en au thème de la reproduction, avant de suivre l'itinéraire des personnages de votre livre. Hein, parce que vous dites... Ce mot, il ne vient pas de n'importe où, on ne parlait pas ainsi avant la parution du livre de Bourdieu. Il y a eu Les Héritiers, et quelques années après, en 1971, La Reproduction, où il va d'ailleurs beaucoup plus loin que dans Les Héritiers. Dans Les Héritiers, Bourdieu laisse une place et à la bonne volonté culturelle de la petite bourgeoisie. Vous reconnaissez vos parents, et je peux reconnaître aussi les miens, ma mère aurait pu faire de belles études, la guerre les a évidemment interrompues, mais il y avait chez elle une soif de lecture et une bonne volonté culturelle dont j'ai vraiment bénéficié. Avec La Reproduction, c'est fini, l'autorité pédagogique, c'est une violence symbolique imposée par un pouvoir arbitraire pour inculquer un arbitraire culturel. Et vous, vous dites... Nicolas Mathieu. Chaque génération apportait son lot de bonnes têtes, vite convaincues, dûment récompensées, qui venaient conforter les héritages, vivifier les dynasties, consolider l'architecture monstre de la pyramide hexagonale. Le mérite ne s'opposait finalement pas aux lois de la naissance et du sang, comme l'avaient rêvé des juristes, des penseurs, les diables de 89, ou les hussards noirs de la République. Il recouvrait en fait une immense opération de tri, une extraordinaire puissance d'agglomération, un projet de replatage continuel des hiérarchies en place. C'était bien fichu. Donc le mérite, c'est encore une ruse du système de reproduction. Et là, évidemment, vous n'êtes plus tout à fait dans le roman, vous nous dites quelque chose, vous défendez une thèse, et cette thèse, je dois dire, m'a fait un peu sursauter, parce que vous êtes un vivant démenti à tout ça. Vous venez d'une votre père est électromécanicien, vous êtes romancier, voilà, et cette exception dit peut-être quelque chose de la méritocratie.
Mais c'est ce dont on parlait juste avant, c'est-à-dire que à aucun moment, à mon sens, les exceptions ne doivent justifier le fonctionnement du reste qui marche à contrario de ça. C'est-à-dire que mon parcours à moi, il est un cas, et je peux pas servir d'alibi à tout le reste du fonctionnement et de l'école et du monde social, etc. Ça existe, mais ça n'est pas la règle. Et j'ai bien aimé l'expression de Maria, les montées en généralité. Effectivement, ce qui est dit dans le passage que vous venez de lire, on pourrait y opposer 1000 cas particuliers qui contredisent ces phrases-là. Mais à la fin, il me semble qu'effectivement le mérite, les parcours ascensionnels dans le monde social qui marchent au mérite sont rares, et que le mérite sert souvent à justifier la fixité des places.
La fixité des places. Alors, avant de donner la parole à Maria Purchet, laissez-moi réagir. Cette thèse-là a été intériorisée par l'institution elle-même. Tout d'un coup, la culture était suspecte, puisqu'elle permettait de faire le tri entre les gens déjà favorisés, qui avaient un rapport d'intimité à la culture, et les gens qui la recevaient de l'extérieur. Moyennant quoi, on a marginalisé la transmission de la culture dans l'enseignement. Et en plus, pour combattre les inégalités, on a accueilli les élèves plus faibles dans les classes plus avancées. Résultat, le niveau général a baissé. Et alors, à la transmission de la culture a succédé pendant un certain temps, on essaye de replâtrer et de rebâtir aujourd'hui, l'enseignement de l'ignorance. Qui s'en est tiré? les enfants des classes favorisées, parce qu'on pouvait, ils pouvaient mettre leurs parents pouvaient mettre ses enfants dans des lycées encore sélectifs, encore exigeants, ou dans des boîtes privées. Le résultat, c'est qu'à Polytechnique où j'ai enseigné, il y avait beaucoup moins d'élèves venus des milieux dits défavorisés après toutes ces réformes qu'avant. Donc la méritocratie avait un mérite. C'est grâce à la méritocratie que Peggy a pu devenir Peggy, que Camus a pu devenir Camus. Mais si les hussards de la République sont suspects, si Monsieur Germain devient en quelque sorte un enseignant répressif avec ses coups de règle, voire davantage, il n'y a plus de Camus, il n'y a plus de Peggy. Donc vous voyez bien que je crois que il est vrai que les choses sont rendues beaucoup plus difficiles aux gens qui viennent de la France d'en bas qu'à ceux, aux enfants qui viennent de la France d'en haut, mais la méritocratie, c'est quand même la seule voie du salut. Et si on sape cette manière d'enseigner, etc., alors il n'y a plus rien.
Alors moi, je ne fais pas la critique de la méritocratie en tant que principe. Je dis juste qu'elle est aussi un mensonge et un cache-misère, que derrière ça, il y a d'autres forces qui sont à l'œuvre. Mais la méritocratie, le fait que la culture constitue une arme pour les plus faibles, pour s'élever, qu'elle puisse autoriser à dépasser ces malédictions de la reproduction sociale, moi j'en suis conscient, puisque je l'ai utilisée comme telle. Donc je ne dis pas qu'il faut mettre à bas la méritocratie, au contraire, je dis juste que l'afficher comme la règle générale, c'est une mystification. Et que la littérature, et a fortiori dans un roman d'apprentissage, elle doit être une littérature des désillusions, c'est-à-dire que les masques tombent et on montre ce qui marche vraiment derrière.
Oui. Mais Flaubert, que vous citez, vous l'avez découvert
à l'école, oui, en première.
D'ailleurs, vous ne citez pas Zola. Or, je trouve que il y a quelque chose dans votre réalisme d'assez proche du réalisme de Zola, notamment dans la manière dont vous décrivez les sensations collectives, l'engourdissement, par exemple, qui saisit Hayange, toute la ville, etc. Je trouve que vous vous inscrivez quand même dans cette double filiation réaliste, Flaubert et Zola, découverts sans doute l'un et l'autre à l'école.
Exactement. Après, moi j'ai plus de tendresse pour Flaubert, parce que je trouve qu'il y a une ironie dans ses livres, qu'il y a aussi peut-être dans le mien, à mon échelle. Hein.
Oui, bien sûr.
Et une haine pour la bêtise qui est la mienne aussi, et qu'on trouve moins chez Zola.
Alors, Maria Pourchet, votre mère reproduit ce que d'autres femmes ont dit avant elle, et on a l'impression que c'est un monde très ancien, presque antédiluvien, qui se perpétue à travers elle. Et votre ouvrage réserve une immense surprise, parce qu'on ne s'y attend pas, avec toutes ces phrases terribles, etc. C'est que cette mère a tout fait pour vous cultiver. Hein. Elle vous emmenait très loin, à la ville, parce que vous habitiez la campagne, c'est
oui,
ça
oui. Hein.
Vous habitiez dans un village qui avait l'air perdu, hors du temps. Hors du temps. Et puis tout d'un coup, et c'est là, avec elle, que vous découvrez ce qu'Alain Françon a fait de Britannicus, ou des mouettes, comment Mnouchkine a réinventé Tartuffe. Vous avez même pu comparer la mise en scène de Mnouchkine à celle de Nordet. Et vous dites aussi qu'avec elle, on repassait 100 fois les mêmes disques. Mahler, Mozart, Sarrasate, Bach, jusqu'à distinguer le son de l'alto de celui du violon. Et elle refusait, bien entendu, de vous offrir des poupées Barbie. La Barbie t'en aura pas, c'est apprendre aux filles que les femmes sont des objets sexuels, c'est préparer la docilité. Donc, elle vous a transmis quelque chose, une forme d'exigence. Vous avez peur de l'héritage, mais elle a fait de vous, malgré tout, une héritière de la culture, Maria Pourchet.
Effectivement, l'héritage est total, c'est-à-dire qu'on transmet les résidus de plusieurs siècles, on transmet les malédictions et les poisons que se transmettent une femme à l'autre, mais en même temps, j'hérite j'ai la chance que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que à un moment, certains déterminismes sociaux, psychologiques, familiaux sont contrebalancés par une espèce d'ouverture, une volonté chez mes parents, les deux d'ailleurs, de faire sauter les barrières physiques d'accès à la culture, pour emprunter une expression un peu malrussienne. Et c'est peut-être aussi des gens qui ne comptent pas forcément sur les, qui ne compte plus sur l'école aussi pour ça. Mais mon père était dans l'enseignement. Je pense qu'il était revenu déjà d'une certaine, enfin, de certaines illusions quant à ce que pouvait faire l'appareil idéologique qu'est l'école. Donc beaucoup de choses passaient par la famille et simplement par la proposition, par des rangées de livres qu'ils avaient lus ou pas, mais en tout cas ils étaient là, par l'abonnement à la médiathèque, ce qui était vraiment pour le coup tous les effets de la décentralisation encore à l'époque, quoi. C'est-à-dire que il y avait les plus grands metteurs en scène venaient à Épinal, à Nancy. Voilà, donc c'est vraiment ça.
Donc c'est plutôt passé par la famille pour vous.
Pour le coup, c'est vraiment passé par la famille, ouais, et par quelques profs et en plus, mais c'était. Mais
alors que c'était une famille aussi modeste.
Ou pas vraiment que. C'était contracté, classe moyenne, quoi.
Que faisait votre mère?
Ma mère, elle était mère au foyer.
Mère au foyer.
Oui.
Et votre père?
Et mon père dirigeait un lycée.
Et votre père était?
Il dirigeait un lycée.
Ah oui. Donc. Mais qu'est-ce que vous que voulez-vous dire quand vous parlez de l'appareil idéologique de l'école qui s'interposait finalement entre vous et la culture?
C'est pas qui s'interposait, mais en tout cas cette mission-là.
C'est pas lui qui l'a rempli. C'est pas l'école qui l'a rempli.
C'est pour le coup, c'est pas lui. C'est pas l'école qui l'a remplissait. C'est-à-dire que appareil idéologique au sens où ça reconduisait des injonctions à certains types de comportements, des valeurs. En plus, moi, j'étais dans l'enseignement privé catholique, donc en termes d'appareil idéologique, c'était assez puissant.
Mais en même temps, vous m'avez dit avant l'émission, et c'était ma grande surprise, que vous étiez dans le même lycée.
C'est le privé catholique.
Vous étiez aussi dans un lycée privé catholique.
Oui, absolument, oui. On ne s'est pas rencontrés à l'époque. Moi, j'ai rencontré Maria Pourchet en lisant ses livres très très longtemps après. Et avec une sorte d'hésitation, parce que je m'étais dit, elle vient du même monde que moi, elle a fait le même lycée. Enfin, j'étais curieux et inquiet de savoir ce qu'elle avait écrit, quoi, puisque ça venait un peu de la même source, quoi.
Et d'ailleurs, il y a un autre point commun entre vous. C'est que la décision d'écrire est venue très tôt. Alors, est-ce une vocation? En tout cas, vous dites-vous que dans un entretien, vous dites vous aviez 7 ans quand vous avez.
Ah oui, il y a 7-8 ans, c'était plié. Ouais.
Et vous aussi, c'est venu extrêmement tôt. Dans votre cas, Maria Pourchet, c'était déjà un peu pour vous libérer de cette parole envahissante, de ce bavardage qui vous entourait.
Ah oui, oui, moi j'ai vraiment écrit pour deux raisons. Une raison, on parlait de Bourdieu tout à l'heure, on parlait des héritiers, j'avais bien assimilé ça. J'avais bien assimilé qu'il y avait une espèce d'aristocratie sociale à qui les choses s'offraient naturellement, et d'autres qui n'appartenant pas aux héritiers devaient trouver des chemins de traverse. Et je m'étais persuadée très très tôt, notamment en lisant Balzac, que la littérature, l'écriture était finalement la meilleure façon de se déplacer dans la pyramide sociale. Bon, c'était une représentation.
En tout cas, cette aristocratie sociale, il me semble que les choses changent.
Oui, je vous parle de la représentation d'un adolescent.
Parce que aujourd'hui, la super élite est une élite d'inhéritiers. Ce ne sont plus tellement des héritiers, si vous voulez. La jet set, ça n'a rien à voir avec la bourgeoisie cultivée qui disparaît aujourd'hui. Si vous voulez, la culture, la promotion de la culture a à voir avec l'avènement de la bourgeoisie, et peut-être qu'aujourd'hui l'éclipse de la bourgeoisie a à voir avec la marginalisation de la culture. Et je ne dis pas ça de l'intérieur, parce que je ne suis pas moi-même un héritier. Oui,
ce que je dirais, c'est que ce sont toujours des héritiers, mais que la bibliothèque a disparu de l'héritage.
Ben voilà, ils sont des héritiers de quoi? Alors, du pognon, là. Voilà. Oui, bon, c'est vrai. Donc ça fait quand même regretter la bibliothèque et peut-être les héritiers à l'ancienne. Mais revenons à votre livre, Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux. Donc, l'intrigue se déroule entre 1992 et 1998, ouais, dans une ville imaginaire, Ayange, qui a tout à voir avec Ayange, et c'est une ville qui a subi de plein fouet la désindustrialisation. Hein. Un siècle durant, les hauts fourneaux d'Ayange avait drainé tout ce que la région comptait d'existence, happant d'un même mouvement les êtres, les heures, les matières premières. D'un côté, des wagonnets apportaient le combustible et le minerai par voie ferrée, de l'autre, des lingots de métal repartaient par le rail avant d'emprunter le cours des fleuves et des rivières pour de lents cheminements à travers l'Europe. C'est fini. C'est un un des effets de la mondialisation, de la nouvelle division internationale du travail. Et cette ville survit à la gloire douloureuse, en quelque sorte, des mines et des aciéries. Et elle est un peu entre deux. Un nouveau monde va surgir, il n'a pas encore surgi, et les gens sont... Il y a peut-être production, mais il y a aussi crise. Et les gens ne savent plus tellement à quoi se raccrocher, puisque... et on leur dit même, en racontant les heures glorieuses des Yanges, qu'ils sont passés à côté de l'essentiel. Et c'est ce monde-là que vous décrivez, Nicolas Mathieu.
Oui, enfin le projet du livre au départ, il est finalement très simple, c'est de raconter des vies qui commencent dans un monde qui est en train de finir.
Voilà.
Et ces gamins-là, ils ont 14, 15, 16 ans, on va les suivre une dizaine d'années. Et non seulement il y a ces forces du destin social, mais il y a aussi tout un héritage qui pèse sur eux, qui est un héritage de tourment difficile à porter, qui n'a plus d'actualité. C'est-à-dire que tous viennent d'un monde, le monde de l'industrie, où les hommes faisaient du métal avec du feu et du minerai. Ce monde-là est mort et ça pèse sur eux. C'est une espèce d'ombre portée. Même dans la géographie, il y a ce haut fourneau qui rouille au milieu de la ville. Et alors, toutes les histoires d'adolescence, c'est quand même toujours vouloir un peu tuer le père, vouloir s'arracher à sa famille, rêver de d'autres horizons, d'échapper belle. Donc eux, c'est ça leur histoire. C'est comment ils veulent échapper à ce lent pourrissement de leur vallée. Quoi.
Et donc, les deux héros du livre sont Anthony et Hassine. Le père d'Hassine est algérien, c'est un immigré. Anthony vient d'une famille française, autochtone, un père buveur. Et vous avez d'ailleurs sur son ivrognerie des pages absolument déchirantes, nous y reviendrons peut-être. Leurs chemins se croisent d'abord parce que Hassine vient interrompre brutalement une fête où est Anthony. Et puis Anthony, à un moment donné, pique la moto de son père. Et puis Hassine la lui vole et la brûle. Et d'ailleurs, c'est terrible parce que c'est le premier chapitre du roman. Hassine est complètement terrorisé par la réaction de son père, qui est un homme extrêmement coléreux. Et sa mère aussi, donc ils entament des démarches pour retrouver la moto. On apprend qu'elle a brûlé. On se dit, bon, on va avoir droit à le face-à-face d'Anthony et de son père. Et non, on ne sait pas, puisque le chapitre d'après, le chapitre suivant, c'est 2 ans après. Et donc on ne saura jamais ce qui s'est passé entre eux. C'est une ellipse, mais comme le père et la mère se sont séparés, on peut penser aussi que c'est à cause de ça. Non, il y a eu une crise épouvantable et que la mère ne l'a pas supporté. J'ai eu raison de faire cette déduction.
Vous y étiez invité par l'ellipse, en tout cas. C'est-à-dire que moi, vraiment, dans ce bouquin-là, c'est ce que j'avais un peu esquissé déjà dans le premier. Je me suis rendu compte que l'écriture servait pas seulement à dire des choses, à fixer du réel, elle servait aussi à détourer des vides. Et c'est dans ces lacunes que le lecteur s'engouffre. Et ça, le livre devient comme le monde. C'est-à-dire qu'il compte autant par ce qu'on en sait que par ce qu'on n'en sait pas. Et c'est comme le hors-champ au cinéma, si vous voulez. C'est tout ce qui est en dehors de ce qu'on voit affecte ce que nous sommes et ce que nous voyons aussi. Et donc, dans ces ellipses, il se passe des choses qui sont cruciales. Il y a des non-dits. Il y a des choses qui restent inconnaissables, comme dans le réel, et qui influe très très fortement le parcours des personnages.
C'est très flaubertien, ça, pour le coup. C'est le il voyagea de l'éducation sentimentale.
Oui, c'est ça.
On disait qu'il était flaubertien.
Alors, à un moment donné aussi, il y a une expression dans votre livre, Nicolas Mathieu, qui rappelle celui de Maria Pourchet, pardon. Vous parlez des phrases prémâchées des parents d'un personnage secondaire, mais tout à fait adorable, qui s'appelle Vanessa. Et donc, voilà, vous aussi, vous, c'est le cœur du livre, l'héroïne, celle qui dit « je », se heurte sans cesse à des phrases prémâchées. Et j'ai pensé à contrario, en vous lisant tous les deux, à Orwell. Parce que Orwell a découvert dans les classes populaires, ce qu'il appelle la common decency. Hein. Des phrases, en effet, mais qui témoignaient de la décence ordinaire, qu'il résumait lui-même par une formule. Il y a des choses qui ne se font pas. Et vous, vous ne faites même pas cadeau, sans doute parce que c'est pas ainsi que vous avez vécu les choses, à ces classes de la décence ordinaire. Ce sont des clichés, des préjugés étouffants, toujours étouffants. Et pour vivre, il faut absolument s'en libérer. Donc vous n'avez jamais rencontré, et je pose la question l'un à l'autre, quelque chose d'équivalent à ce qu'Orwell appelle la common decency, dans le monde dont vous venez. Maria Porchet.
Vous voulez dire une injonction à certains comportements, une injonction à bien se tenir?
Quand même.
C'est ça?
Parce que oui, non, mais lui, il y a des choses qui ne se font pas. C'est, ouais. Oui, c'est le père de Camus. Un homme, ça s'empêche. Bon, et Camus ne l'a pas entendu, puisque son père est mort à un an. Il l'a entendu après, et il en a fait presque la devise de sa philosophie, puisque la pensée de Camus, c'est une pensée de la finitude. Non, mais c'est vraiment une phrase de la common decency. Un homme, ça s'empêche.
Ouais, d'accord. Alors, une grande partie des phrases de ce catalogue appartiennent effectivement à cette rhétorique-là, de ce que tu dois faire, ne pas faire, au regard des canons qui sont censés être ceux de ton milieu. Mais justement, en les énonçant, en tout cas, c'est dans la description qu'ils deviennent le ferment d'une révolte. Ah, c'est pas ça que je dois faire. Donc, c'est comme nous donner la clé de ce qui pourrait précipiter notre déclin. Puisqu'on a vu que d'une génération, que toutes les générations précédentes, au nom de ces mêmes, en écoutant ces mêmes injonctions, quelque part, ont mal fini. Donc il suffit de faire exactement le contraire. Et c'était quelque chose d'aussi sommaire que ça, chez moi, très très tôt. C'est-à-dire, il suffit qu'on me dise, je n'en connaissais aucune autorité, donc c'était très compliqué pour mes parents, pour les profs et tout ça, mais il suffisait qu'on me dise quelque chose pour que je pense, ah, merci. Si je veux sortir, si je veux aller à Paris, c'était aussi simple que ça, hein. C'était vraiment des images presque triviales. Si je veux aller à Paris, si je veux écrire des livres, si je veux quelque part être un homme aussi, parce que ça se formalisait aussi beaucoup comme ça pour moi, je vais faire exactement le contraire de toutes ces gens de... C'est l'injonction que je découvre donc orwellienne.
Oui, donc, le contre-pied était vital.
Ah oui, et systématique.
Vital pour vous. Alors, mais justement, je vais prendre une des phrases qu'on retrouve dans vos deux livres et que vous rejetez l'un et l'autre, si j'ai bien compris. En tout cas, que vous rejetez, vous, très fort, Nicolas Mathieu, c'est « si tu veux, tu peux ». Ça vous met hors de vous. Et là, j'ai envie de vous demander, avec une extrême naïveté, pourquoi cette phrase vous est-elle aussi odieuse?
Parce que ça, c'est une phrase qui participe de tous les mensonges qu'on nous dit enfant et qui...
Je secoue la tête et évidemment, ça vous énerve, pardon.
Ça ne m'énerve pas du tout, ça. Ça fait partie d'un espèce de bagage idéologique minimal qu'on nous répète et qui masque, encore une fois, le fonctionnement réel des choses. C'est-à-dire qu'il suffit pas de vouloir pour pouvoir. Ça dépend d'où on part, ça dépend par qui on est aidé, ça dépend vers quel but on tend, ça dépend quels adjuvants on va avoir en cours de route. Et tout ça, il faut avoir fait... Il faut avoir commis ce crime d'abattre ces phrases pour pouvoir voir ce qui se cache derrière. Derrière toutes ces phrases que Orwell qualifie de common decency, et il a beau jeu de le faire puisqu'il ne vient pas de ce monde, il y a quand même... un espèce de courant souterrain dans chacune d'entre elles qui est « il faut rester à sa place ».
Et si tu veux, tu peux, c'est le contraire.
Mais oui, mais...
c'est exactement le contraire, c'est pour ça.
Oui, mais alors, ce sont des phrases qui posent problème, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Les phrases qui nous assignent à des places, je me souviens que récemment, ma mère a été interviewée par des journalistes après le prix que j'ai eu, et je lui dis « tu sais... tu n'es pas obligé de le faire. » Elle m'a dit, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. C'est une phrase où, là, vraiment, elle se met dans une position de cette common decency, de espèce de sagesse populaire, et on fait le taf. La phrase qui consiste à dire « quand on veut, on peut », c'est autre chose, ça. C'est une manière de faire reporter sur l'individu des choses qui parfois sont vraiment collectives en réalité.
Oui, mais en même temps, à 7 ans, là, quand vous décidez d'écrire, et puis à 20 ans, quand vous voyez dans votre tête dans votre tête. Il y a quelque chose qui dit, si tu veux, tu peux. Parce que c'est pas votre destin d'être écrivain. Vous vous heurtez éventuellement à des réticences, à un certain scepticisme. Vous vous obstinez parce que vous voulez. Et donc, si vous voulez, vous vous dites, je peux. Non ?
Non, parce que aller jusqu'au bout, ça m'est apparu le fait de pouvoir comme assez miraculeux, et je m'étais dit, je voudrais envers et contre tout. C'est pas exactement pareil, quoi.
Pas pareil. Et vous alors ?
Moi, je suis assez d'accord avec vous deux, parce que pour avoir beaucoup entendu cette phrase, si tu veux, tu peux. Je pense que vraiment, oui, on peut l'entendre comme la démission des éducateurs. Parce que, oui, c'est exactement ce que dit Nicolas, si tu veux, tu peux, ça veut dire que je te renvoie à la responsabilité de ton propre destin et je fais totalement abstraction du poids des déterminismes qui vont peut-être t'interdire d'accéder à la démesure dont tu rêves parce que, dans le milieu dans lequel tu es, pour telle et telle raison, tu pourras au maximum accéder à la mesure. Voilà, donc ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, on est tous les deux les exemples de ce qui peut résulter de cette phrase de ça devient plutôt si je veux je peux moi je l'ai entendu formuler de différentes façons, je l'ai beaucoup entendu comme ça, et puis après il y a quelqu'un un jour qui m'a dit qui représentait une autorité très forte, parce que c'était un homme de droit, et qui m'a dit mais vous valez mieux que ça. Et je l'ai cru. Alors que le si tu veux, tu peux, je l'ai jamais cru. Mais c'est la même rhétorique. Ou c'est comme le je m'en fais pas pour toi. Et cette phrase-là a vraiment été un conducteur de thème. Et elle a été miraculeuse pour moi. C'est-à-dire que devant chaque frein, il y avait je peux trouver quelque chose qui fera que je vais dépasser. Même sans tel et tel levier, je vais quand même y arriver. Donc elle est extrêmement ambivalente.
Elle est ambivalente, mais elle ne dit pas la même chose qu'une autre phrase. Invite sans cesse cette sagesse qui invite sans cesse à en rabattre sur ses ambitions, à rester à sa place. Une phrase qui sert de titre à l'un de vos chapitres, terrible, qui est là vraiment l'étroitesse de la petite bourgeoisie, tu te la racontes, hein. Tu te la pètes. Voilà. Et bien non, là, il faut bien se la raconter un peu. Et puis moi, je pense aussi à un de mes anciens élèves à Polytechnique, qui était un extraordinaire élève, majeur de sa promotion, etc., qui a maintenant un bon poste. Ses parents était paysan, agriculteur, dans la Manche, je crois. Et il lui avait dit, tu vas à l'école, ce que tu fais à l'école, c'est pas pour réaliser une ambition particulière, il faut que tu ramènes de bons bulletins. Voilà. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu ramènes de bons bulletins. Il y avait cette pression, et cette pression, je sais pas si on peut l'assimiler à si tu veux, tu peux, mais on lui disait, tu vas pas chercher d'excuses sociales pour ne pas travailler. Et si tu travailles, tu y arriveras. Donc, c'est un peu la mission qu'on doit assigner à tous les parents, quelle que soit leur place dans l'échelle sociale. Non, Nicolas Mathieu ?
Mais c'est deux choses différentes, parce que le métier de romancier, de la manière dont moi je le conçois, il consiste en grande partie à mettre à mal des illusions, des formes de bêtises particulières, des histoires que la société se raconte à elle-même.
Oui, c'est vrai.
Sans nier toujours la nécessité de ces histoires-là. C'est-à-dire que moi-même, je les transmets à mon fils pour l'inciter à faire le job, en fait. Et la méritocratie, j'en fais la critique, mais j'en suis le résultat. Et je vais même essayer d'en faire profiter la génération qui vient derrière moi.
Oui, mais vous êtes romancier. Vous voulez, en effet, dissiper les illusions. Mais vous avez un personnage auquel je me suis attaché. Je me suis beaucoup attaché à Anthony, mais aussi à Stéphanie, qui est l'amour d'Anthony. Un amour qu'il ne sait pas formuler, sauf à la toute fin, quand c'est vraiment fini, qu'elle vogue vers un autre destin, et qu'il a cet aveu. Je pense tout le temps à toi, tu sais. Mais voilà, c'est quand vraiment, il n'a plus aucune chance. Mais cette Stéphanie, Elle est très très mauvaise en classe, elle pense à autre chose, elle pense qu'aux garçons, elle accumule les mauvaises notes, et puis à un moment donné, elle se décide à travailler. Elle bachote de manière un peu stupide, et puis peu à peu, elle réussit, elle a la mention au bac qui lui permet de s'acheter une petite voiture, et elle se découvre extraordinairement bonne en maths. Mais c'est un travail qu'elle fait sur elle-même, sauf que vous nous laissez entendre qu'elle est quand même la fille d'un bourgeois de la ville. Que donc, c'est quand même la reproduction. Mais on a envie de se dire, mais non, peut-être pas. Peut-être qu'il y a eu un mouvement très fort en elle, Elle a dû se dire, si je veux, je peux, et elle y est arrivée. Donc pourquoi plaquer justement sur cette biographie très particulière ce schéma de la reproduction?
Bah elle, justement, je trouve pas du tout qu'elle soit dans la reproduction. C'est une des rares qui s'arrache à son monde d'origine. Parce qu'elle vient d'un milieu, certes bourgeois, mais sans grande culture, un milieu de gens qui font de l'argent en faisant du commerce, en fait. Et elle, pour des raisons anecdotiques au départ, c'est-à-dire que son père dit, si tu veux une voiture, je veux que tu aies la mention. Ça va mettre en branle une manière de bosser qui va lui permettre de considérer le monde différemment.
Oui, et alors, il y a aussi quelque chose, pour en revenir à la ville d'Ayange, que j'ai trouvé absolument déchirant, c'est l'idée d'un salut par le tourisme. C'est comme les schtroumpfs dans le Nord, si vous voulez. Il n'y a plus de mines, donc on met des schtroumpfs. Et donc là, et on se dit, on va faire des régates, etc. Et comme le seul avenir de cette région désindustrialisée passe par les services, et surtout par le tourisme. On se dit, là, il y a vraiment quelque chose qui se perd, non? Le changement ne va pas toujours vers le mieux.
Non, c'est sûr. Ces hommes-là qui ont travaillé dans l'industrie et qui, a posteriori, idéalisent beaucoup ce qui s'y est passé, c'était quand même une certaine mythologie. Les hommes du fer, on l'entend dans le mot. Et puis ça impliquait aussi des rapports sociaux de solidarité, un horizon partagé, un désir politique en commun, etc. Et puis du jour au lendemain, ça devient des atomes, des gentils organisateurs dans un monde qui est ludicisé quelque part. C'est-à-dire que les hauts fourneaux, ils servent à faire des vernissages. Et puis le lac, on va organiser des régates. Effectivement, c'est quand même de moindre intensité comme genre d'existence.
Oui. Est-ce que vous avez reconnu, Maria Pourchet, dans le livre de Nicolas Mathieu, le monde dans lequel vous avez l'un et l'autre grandi?
Ah oui, de manière très... ça fait déjà 2-3 mois que j'ai lu maintenant, mais il m'en reste encore quelque chose de très vif et de très émouvant à cause de ça, parce que c'est le seul livre qui m'a rapporté mon enfance et mon adolescence comme ça, de manière assez totale, où c'est à la fois le paysage, c'est ce qu'on entend, c'est presque les odeurs, c'est quand vous...
Et les gens aussi,
la façon un peu Zola,
les personnages.
Ah oui. Ah oui, mais ça m'a... C'est tout ce que j'avais quitté aussi, c'est tout ce qui m'a dérangé. Donc,
tout ce que vous avez quitté, oui.
Et quelque part, je l'ai pris un peu dans la figure, quoi. Je l'ai pas lu d'une traite. Parce que c'est des réalités qui m'ont dérangé. Je voyais bien qu'il y avait des gens qui ne bénéficieraient pas du même ascenseur que moi, pour reprendre un terme encore plus vulgaire que fatalité sociale. Et il y a plein de choses que je me suis empressée d'oublier, qui sont venues un peu comme un inconscient. Il y a une phrase dans le livre de Nicolas, je ne sais plus exactement à quel endroit, qui parle, je crois que ça parle dans Anthony qui dit ça, et il dit la forêt pesait derrière lui comme une mémoire.
Ah oui.
C'est une phrase au premier degré, parce qu'il quitte la forêt.
Oui.
C'est exactement ça, ce livre, il y a un peu ma forêt là-dedans, y compris celle qu'on n'a pas forcément envie de parcourir.
Il n'y a pas d'ascenseur, il y a un escalier.
Exactement.
Dont il faut monter les marches une à une, ce que vous avez fait l'un et l'autre.
Alors, il est de plus en plus étroit, cet escalier.
Vous diriez ça?
Ah oui, vraiment.
Oui, mais pour des raisons, je suis d'accord avec vous, mais peut-être que sur les raisons de ce rétrécissement, nous serions en désaccord, Nicolas Mathieu. Mais votre livre, donc, se passe en plusieurs périodes. La dernière, 1998, la Coupe du Monde. Et moi, ça m'a beaucoup touché, parce que, en plus, vous vous concentrez sur la demi-finale. Et cette demi-finale France-Croatie, dont je me souviens très bien, j'y étais. J'y étais parce que j'ai toujours aimé le football, je voulais que la France gagne, et en même temps, j'avais un attachement à la Croatie, dont j'avais défendu l'accession à l'indépendance, et il y a un politologue, footballologue, Pascal Boniface, qui avait dit, ce match, c'est la démocratie, la France contre la dictature. Donc ça m'avait un peu énervé, et j'étais allé au match, et je l'avais vécu de l'intérieur. Et pourquoi avoir choisi la Coupe du Monde de 1998 pour clore votre livre? Pourquoi cet épisode? En quoi est-il important? De quoi est-il le symptôme?
Le roman attache une grande importance à ce qui nous sépare, aux écarts entre les gens, aux hiérarchies sociales, aux frontières entre les milieux. Mais par moments, la société, elle est prise de grandes pulsions fusionnelles. Et la Coupe du Monde, ça a été un de ces moments-là. Et c'est aussi, encore une fois, des histoires qu'on se raconte. c'est des fables désirables plutôt qu'une mystification. Oui. Et c'était intéressant. Enfin, moi, j'ai voulu le placer dans la demi-finale plutôt que dans la finale parce qu'elle a eu quelque chose de miraculeux, cette demi-finale.
Les deux buts de Thuram.
Les deux buts de quelqu'un qui ne marque jamais, oui. enquillé en c'est quelques bien. Minutes. Et là, on a senti quelque chose d'irrationnel qui se produisait. Oui. Et quelque part, cette volonté de tous ensemble, là, qui se saisit du corps social, mais dans sa totalité, quoi. C'était aussi, ça n'est pas possible. Et pourtant, ça se produit.
Ça n'est pas possible, pourtant ça se produit. 1992-1998, nous sommes en 2018. Cette question vous a déjà été posée, mais elle est inévitable, parce qu'on y pense en le lisant. Il y a eu les Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, c'est vraiment la France d'en bas, la France des laissés pour compte, de la nouvelle économie, de la mondialisation, etc. On se dit, c'est la France des Yanges, les Gilets jaunes.
Oui,
partiellement beaucoup. D'ailleurs, ouais. parce que d'un autre côté, le fossé s'est aggravé entre le monde de Hassine et le monde d'Anthony. Là, vraiment, ils n'habitent plus d'ailleurs toujours les mêmes lieux. Beaucoup d'autochtones ont quitté la banlieue pour la France périphérique, etc. Bon, mais cela mis à part, et qui est important, vous nous parlez par anticipation de la colère des Gilets jaunes, Nicolas Mathieu.
Oui, et l'écart entre la France d'Anthony et Hassine, il est peut-être qu'il s'est creusé, mais il s'est moins creusé que celui de la France d'Anthony et Paris. C'est-à-dire que dans le roman, on voit les positions de Stéphanie, d'Anthony par rapport à une ville qui est centrale pour eux, qui joue comme un attracteur et un répulseur, qui est Paris en fait. Et c'est cette distance-là qui s'est creusée davantage. En quatrième de couve du roman. Il y a cette phrase, ce roman parle d'une France loin des comptoirs de la mondialisation, pris entre le déclin et la nostalgie, la décence et la rage. Ça me semble une bonne manière de parler des gens qui se sont manifestés récemment. Ouais.
Oui, la rage. Bien, la discussion se termine. Je vous remercie l'un et l'autre. Je rappelle les titres de vos deux très beaux livres, Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux. Ce roman a reçu le prix Goncourt, comme chacun sait. Il est publié chez Actes Sud, Maria Porchet, Toutes les femmes sauf une, publié chez Pauvert. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Connac, à la technique aujourd'hui Manuel Couturier, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.